Radio G.
101.5 FM.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Une virgule par-ci, un zéro par-là, des valeurs un peu trop approchées, on a de la marge en science. L'approximation a toujours fait partie des pratiques que les humains et humaines que nous sommes ont dû utiliser pour décrire le réel. On tente de s'approcher au mieux de la nature, mais il est difficile d'être aussi exact qu'elle. Sans compter toutes ces expériences un peu hasardeuses qui relèvent plus d'intuition au doigt mouillé. Comment approximer sans dénaturer ? Dispose-t-on des outils nécessaires pour pratiquer une science vraiment exacte ? On se penche à peu près sur la question avec les bénévoles du Labo des Savoirs approximatifs. Voilà pour l'introduction. Je vous ai dit aujourd'hui, nous sommes donc, c'est le Labo des Savoirs approximatifs et jusqu'au bout du bout, nous sommes dans l'approximation, l'improvisation, la découverte, le à peu près. Mais ce qui n'est pas approximatif, c'est la qualité des chroniqueurs et des chroniqueuses présents et présentes ce soir. Et je commence par Sophie.
Waouh.
Bonjour à toi.
Coucou Dunia.
Ça faisait très longtemps et je suis très heureuse de te revoir à nouveau en émission.
Je suis très heureuse d'être ici, ça m'avait beaucoup manqué.
Pourrais-tu présenter par exemple ton voisin de gauche? On va faire quelque chose comme ça, un petit passage de bâton aujourd'hui.
Oui, mais alors c'est au moment où je me souviens plus de son prénom alors que
c'est horrible. Mais pas du tout, car on est dans l'approximation. Bonjour Vincent.
Jérémy, Fred peut-être. Gérard.
Bonjour Stéphanie, bonjour Carla.
Voilà. Jérémy Frexas, le fringant, mesdames et messieurs, bienvenue à toi.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Très content d'être là en studio depuis une éternité qu'on n'est pas venu ici, donc ça fait du bien.
À ta gauche ou à ta droite, parce qu'on ne sait pas très bien aujourd'hui, Florence, bonjour.
Bonjour.
Comment t'appelles-tu?
Florence, j'ai cru comprendre.
Tu es sûre que c'est pas Floriane peut-être?
Ah
du coup
oui, peut-être. Oui, c'est vrai, ça va être marqué Floriane sur mes cartes d'identité.
Sur ta carte d'identité.
Donc oui, je m'appelle Floriane.
Bienvenue à toi dans cette belle émission du N'importe quoi aujourd'hui. Et pour terminer, Célie. Mais Célie, ce n'est pas ton vrai prénom, n'est-ce pas?
Bah non, évidemment.
Bah non, bien évidemment.
Voilà, sinon ça serait trop simple, bah, finalement.
Non, on n'est pas là pour la simplicité.
Non. Bah du coup, moi, mon vrai prénom, c'est Sixtine.
Comme la chapelle?
Oui.
Bienvenue à toutes et tous, et pour cette nouvelle émission.
La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs.
Ce n'est pas un sujet qui est pris à la rigolade. On a une discipline entière consacrée aux approximations. Et les physiciens également adorent faire des choses un petit peu pétées. Par exemple, les vaches. Quelle est la meilleure approximation d'une vache pour un physicien? Je vous laisse deviner.
Oh là là. En termes de quoi? De poids, de taille, de forme? Un rectangle noir et blanc.
Alors, qu'est-ce qui est encore plus parfait qu'un rectangle?
Quatre pattes, des cornes et du lait.
Une sphère. Mais oui, Jérémy, tout à fait. La meilleure approximation pour un physicien d'une vache, c'est une sphère. C'est une blague récurrente parmi les physiciens qui aiment beaucoup trop simplifier pour pouvoir faire leurs calculs derrière, parce que la vérité, la nature est beaucoup trop complexe pour être décrite avec des équations exactes. On peut parler également des fameux gaz parfaits, qui ne sont qu'une approximation à basse pression, très bonne approximation de tous les gaz.
C'est vrai que, étant moi-même dans la vraie vie un peu physicien, enfin du moins j'essaie de le faire croire à mes élèves.
Un peu, c'est important de le préciser.
Un peu, ouais. C'est souvent un débat qui revient avec eux de Est-ce que ça a vraiment du sens d'utiliser des formules et des théorèmes pour faire des choses qui sont fausses? Et c'est vrai que moi, de façon assez parfois un peu provocante, je dis, en fait, là, ce qu'on fait, c'est faux. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre à quel point c'est faux. Malgré la fausseté, est-ce qu'on peut quand même apprendre des choses, des calculs et des résultats qu'on mène, en fait? Et donc, finalement, c'est vrai que ça peut paraître absurde d'approximer une vache par une sphère, mais peut-être que dans certaines situations, en fait, la vache et la sphère ont des propriétés communes qui fait que on n'a pas besoin forcément de se casser la tête à considérer la complexité de la vache, et on peut très bien en fait considérer qu'une sphère fait l'affaire, quoi.
Oui, parce que pour calculer le volume de lait que produit une vache, on n'a pas forcément besoin de savoir qu'elle a quatre pattes, des taches dans tel sens.
Je le note, la prochaine fois que je dois calculer combien de lait produit une vache, je dessinerai une sphère et ce sera tout de suite beaucoup plus simple.
Ce sera tout de suite beaucoup plus simple.
En termes d'approximation, ça me fait penser à un article dont Jérémy avait parlé il y a quelques temps qui s'intitule « Les chats sont-ils liquides ?» ça de mémoire. Où on voyait que les chats qui sont pourtant bien solides, selon l'échelle de temps selon laquelle on les étudiait, pouvaient paraître pour liquides, étant donné leur manière de prendre la forme des récipients dans lesquels ils se trouvaient. Et moi, Jérémy, tu es peut-être mieux placé que moi pour en parler.
Je me souviens plus exactement du titre de l'article, mais c'était un petit article de vulgarisation qui présentait les concepts de base de la rhéologie. Donc la rhéologie, c'est l'étude justement de la déformation des solides et des fluides. Et en fait, en rhéologie, la frontière entre solide et fluide, ça peut être assez compliqué à comprendre. Et par exemple, une montagne, si jamais on la considère sur une courte échelle de temps, c'est quelque chose de solide, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas se déformer. Alors que si on considère l'échelle des temps géologiques et donc des très longues périodes, la montagne va avoir un comportement plutôt fluide. Et donc le chat, on fait de la parallèle avec le chat, était là pour justement expliquer ce concept qui paraît un peu contre-intuitif, qui est que en fait un chat, si jamais on considère un petit chaton qui est hyper excité, il va aller dans tous les sens et il va rester entre guillemets dans une forme de chat, donc ce sera un comportement plutôt solide. Alors qu'un chat un peu plus âgé, qui va souvent prendre la forme du contenant là où il s'installe, avoir un comportement plutôt liquide. Et donc c'était un parallèle pour montrer l'importance de l'intervalle temporel dans lequel on considère l'objet pour définir ses propriétés. Et qu'en fait c'est quelque chose qui n'était pas entre guillemets intrinsèque ou inné, mais qui variait en fonction du contexte dans lequel on se plaçait pour faire l'étude.
Et du coup, si le chat est dans un contenant sphérique, toutes ces approximations, au final, pour avoir un chat parfait et sphérique... Autre très grand sujet, très important au Labo des Savoirs, la bière. Connaissez-vous le test de Student? Et si je vous pose la question, c'est qu'il y a bien un lien avec la bière, notamment avec une fameuse bière brune irlandaise. William Gosset, un employé de cette fameuse brasserie irlandaise, au début des années 1900, y a développé ce test qui ne porte pas son nom. Ce test de Student, donc, permet de tester l'écart qu'il peut exister entre les valeurs moyennes de deux échantillons indépendants ou bien d'un échantillon par rapport à une référence. C'est un test très utilisé, mais qui a également ses limites. Et c'est un, parmi d'autres, d'une batterie d'outils statistiques à disposition des scientifiques. Autre test statistique très utilisé, et il est important de le préciser car on entend beaucoup parler en ce moment de modèles, de courbes exponentielles, de marge d'erreur, en effet, chaque modèle a des erreurs. Une mesure aussi précise puisse-t-elle être, possède forcément des erreurs. On a par exemple des atomes qui se baladent dans un espace, et on ne connaît pas forcément précisément leur position, ce qui induit des erreurs de mesure. En biologie, sur une simple analyse sanguine par exemple, les mesures sont précises, mais possèdent toujours un intervalle d'erreur. C'est pour ça que l'on parle d'intervalle de confiance. Ce sont littéralement sur les courbes des barres verticales dans lesquelles la mesure, la véritable mesure, est contenue. On a suffisamment confiance lorsque une valeur se trouve dans cet intervalle. Oui, Célie ?
Ça prend beaucoup de temps en labo, parce que trois réplicas biologiques. Moi, j'ai fait des études en biologie. Trois réplicas biologiques, trois réplicas liés au manipulateur ou à la manipulatrice. Donc, il fallait répéter six fois la même chose pour avoir un résultat qui s'approchait le plus de la vérité.
Jérémy ?
C'est assez marrant ce que tu évoques là sur les barres d'erreur. J'avais vu passer des photos, je crois que c'était en Iran, où sur les canettes et sur les contenants, il y a aussi un intervalle de confiance sur le volume qui est contenu en fait dedans. Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, au quotidien, on n'a pas forcément l'impression que ces intervalles d'erreur, c'est important. Mais finalement, est-ce qu'on est vraiment sûr que dans chaque bouteille d'eau cristalline, il y ait pile poil 1,5 litre d'eau ? Et finalement, je trouve que c'est assez chouette en fait, de mettre cet intervalle d'erreur pour être... pour se rendre compte en fait, que toutes les mesures en fait, ont une incertitude et qu'il y a toujours un intervalle de tolérance et qu'en fait, il faut toujours se méfier lorsqu'on donne un chiffre comme ça de façon absolue. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible de répliquer de façon infinie et très précise une mesure particulière. Quoi.
Oui, tu as parlé des intervalles de confiance. Mmh. C'est exactement ça. C'est un intervalle avec un minimum et un maximum dans lequel on est à peu près sûr que la valeur cherchée et mesurer. Mmh. Et c'est des choses qui sont vraiment importantes en physique, en biologie, parce que rien n'est absolu, comme tu l'as dit, que ce soit de la bouteille de cristalline à une mesure biologique faite en laboratoire.
Éveillez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au Labo des Savoirs.
On l'a compris, on a souvent besoin des approximations car avoir un chiffre précis, avoir une mesure précise n'est pas toujours possible. Et on a besoin de chiffres, de nombres pour se faire une idée, pour comparer, quand on se pose des questions, quand on veut avoir une information. On n'a pas toujours les données à proximité pour pouvoir faire nos calculs. Et des fois, tout ce qu'on a aussi, c'est un stylo et un bout de nappe pour faire des petits calculs en fin de soirée, au dernier moment à l'arrache, et on s'est toujours tous et toutes demandé des questions du genre combien il y a de grains de riz dans une bouteille. Bon, peut-être pas tout le monde, mais c'est des questions que des personnes ont pu se poser par le passé. Et Sophie, je crois que nous avons un grand mathématicien qui s'est penché sur la question.
Presque un physicien.
Je t'avais dit que c'était approximatif.
Ah oui, mais physicien aime plus l'approximation, je pense, que les mathématiciens. Mais alors, ton exemple était pas mal, Dounia, on va le reprendre. Combien il y a de grains de riz dans un sac de 1 kg ?
Beaucoup.
Oui.
10 000.
10 000 ?
Difficile. 10 000, mais c'est pas assez.
Non. Alors, plus, hein. C'est donc difficile d'avoir une réponse très précise, à moins qu'on les sorte un à un de ce sac et qu'on les compte. Une autre question qu'on peut se poser, c'est là combien il y a de personnes qui peuvent tenir debout entassées dans notre studio d'enregistrement au Labo des Savoirs, en partant du principe, bien sûr, que nous avons tous fait un test PCR dans les moins de 48 heures et qu'il est négatif. Covid, tout ça, tout ça. Bref, autant de questions auxquelles on répond d'abord par une approximation. Une approximation, une estimation, qui a un nom, celle du physicien, donc, on en parlait, Enrico Fermi. Alors, vous le connaissez peut-être, c'est lui qui se demande où sont bien passés les aliens.
Lui-même.
Lui-même, il a une histoire d'aliens et donc d'approximation. Son estimation de Fermi, c'est un moyen assez simple d'estimer une réponse à un problème, en faisant donc des approximations le plus correctes possible, sans avoir forcément de données précises sous la main. Pour revenir sur l'exemple dont on parlait au début, dans le fameux sac de 1 kg, si on part du principe qu'un seul grain de riz fait environ 0,04 g, alors, on peut estimer leur nombre à... Est-ce qu'il y a des gens qui sont forts en calcul mental ?
Non.
Non, personne ? Non.
Moi, j'ai lu sur la feuille juste à côté.
Bah ouais, 25 000 graineries environ, mais c'est pas forcément la réponse. Il faudrait les sortir donc un à un pour savoir et comparer. Mais souvent, les comparaisons s'avèrent justes. Et en résumé, pour Fermi, il vaut mieux avoir à peu près raison que précisément faux. Cette méthode fonctionne principalement grâce aux ordres de grandeur. Si les chiffres choisis peuvent être très approximatifs, ils se compensent entre eux et ils permettent d'arriver à un ordre de grandeur plutôt raisonnable. Ça permet bien souvent de vérifier la vraisemblance de résultats scientifiques sans avoir à lancer des calculs très savants. Qu'on pourra lancer d'ailleurs après, mais ça permet d'avoir une estimation. Un exemple connu de cette méthode revient à Fermi lui-même. Alors, selon la légende, parce que ça a été, je l'ai lu sur plusieurs sites mais je n'ai jamais pu le vérifier, je vous le raconte quand même, c'est assez intéressant. Pendant l'essai atomique Trinity, qui est donc le premier essai au monde d'une arme nucléaire par les États-Unis en 1945, le physicien cherche à connaître la puissance de la bombe qui va exploser. Donc, la légende raconte qu'il déchire des morceaux de papier en petits bouts en prévision de l'explosion. Au moment de l'onde de choc, il lâche les morceaux au-dessus de sa tête et les bouts de papier s'envolent à environ 2 mètres. Après un rapide calcul mental, puisqu'il était fort en calcul mental, lui... Enrico Fermi estime alors que la puissance de l'explosion est d'environ 10 kilotonnes de TNT. C'est une approximation qui sera validée des semaines plus tard, à la suite des calculs faits par les scientifiques.
Les Fermi Problems, en anglais, c'est devenu le nom de problèmes mathématiques qu'on donne à des élèves pour les entraîner à avoir une réflexion pragmatique. C'est donc vachement utile. Il existe des pages et des pages entières de ces problèmes de Fermi, si vous voulez vous entraîner, il y en a plein sur Internet. Moi, pendant ce temps-là, je vais retourner compter mes grains de riz.
Est-ce que je peux faire un disclaimer sur moi-même? Je ne suis pas du tout apte à faire des estimations de taille. Je suis incapable de dire qu'un immeuble fait telle ou telle taille, qu'il y a tel ou un certain nombre de personnes dans une foule. Je n'ai aucune idée de la différence entre 50 personnes ou 250 personnes dans un endroit. Il faut absolument que j'ai un repère qui soit connu, et donc j'apprends des repères par cœur. Donc j'estime des tailles par rapport à ma propre taille. Je me dis, je mesure 1m75, donc j'évalue combien de fois moi il y a, et donc je multiplie. Et
je suis dans la même team, Célie. Je suis pareil. C'est-à-dire que je ne sais pas les chiffres. Pour moi, là, j'ai lu qu'un grain de riz faisait 0,04 grammes. Je n'en avais aucune idée. Je ne sais pas ce que ça représente.
Moi non plus. Mais là, même des distances, moi, des fois, je demande à mon papa, ah, à ton avis, ça mesure à peu près combien? Il me fait 37 cm et je suis là. Ok, je mesure. On est à 37,5 ou 36,5. On est à ce degré de précision, mais juste à l'œil. Et je trouve ça incroyable parce que moi, je suis incapable de faire ce genre d'estimation.
Oui, t'aurais dit un mètre comme moi.
C'est ça, j'aurais fait off.
Toi, t'es vraiment dans un ordre grandeur au pifomètre à peu près.
Ah non,
quoi.
Mais c'est vraiment, j'ai l'impression d'être, de pas voir des choses correctement parce que j'arrive pas à faire cet ordre de grandeur. Donc, je suis obligée d'avoir des repères.
Des références.
Mais c'est pas déconnant parce que même un ordre de grandeur, tu peux dire 10 millions de grains de riz. Si tu ne sais pas ce que c'est déjà 10 grains de riz, tu ne peux pas avoir une idée de l'immensitude de ce que ça représente 10 millions de grains de riz. Il y avait ce même exemple avec la fortune de certains dirigeants, de géants du web, que je ne citerai pas, qui commencent par un A, où la fortune était tellement grande qu'on n'arrivait même pas à se le représenter. Oui. Donc même parfois quand on passe par des ordres de grandeur, pour dire approximativement ça fait ça, si on n'a pas de référence... Impossible de se le représenter.
Il faut dire, c'est tant de fois un truc connu, finalement.
C'est pour ça qu'on utilise souvent les terrains de foot. Ça fait tant de terrains de foot.
Ouais. Ou tant de tours Eiffel.
Tant de piscines olympiques. Mmh. On le voit souvent dans les articles de vulgarisation. C'est de donner une référence pour ceux qui, comme nous, n'ont aucune idée de quoi on parle.
Exactement. Bah, écoute, je suis ravie de ne pas être la seule dans cette situation. Bon, c'est pas une situation qui est folle, mais du coup, ça me rassure un peu quand même.
C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs.
Et je me tourne vers Célie. Célie, tu es toujours là, notre chère chapelle.
Je suis toujours là, Dounia.
Tu es avec nous aujourd'hui en plateau pour... Attends, ça va... deux secondes, ça va me revenir. Je l'ai sur le bout de la langue. Tu venais faire un truc.
Oui.
Un bidule.
Ouais, ça. J'étais à peu près là, ouais, exactement, ah. Parce que j'aimerais parler d'un truc.
Ah oui, tu m'en as parlé. Ouais, je sais plus. Ouais, je vois à peu près.
Ouais, à peu près. Voilà, c'est ça. C'est l'approximation lexicale, ça s'appelle. Mais vous l'avez très bien expérimenté. Donc, le portail lexical du CNRTL, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, une mine d'or, cet endroit. Distingue deux définitions du mot approximation, une définition mathématique et une définition du langage courant. Donc en mathématiques, c'est, j'ouvre les guillemets, une opération par laquelle on tend à se rapprocher de la réelle d'une quantité ou d'une grandeur sans y parvenir rigoureusement et par extension le résultat quantitatif de cette opération ou une valeur approchée.
Ouh !
Tout ça. En langage courant, c'est une évaluation approximative d'un nombre, d'un chiffre, d'une distance, d'une date, etc. Et donc, par extension, le caractère d'une chose lorsqu'elle n'offre qu'une exactitude relative. Que ce soit en mathématiques, ou alors apparemment les autres disciplines non-timation, ou dans le langage courant, l'approximation, c'est quand on se rapproche de la valeur réelle d'une chose. Mais ce n'a pas toujours été le cas, parce que si je vous dis rapprochement, est-ce que vous pensez tout de suite à une approximation mathématique ?
Pas vraiment.
Non, je pense à deux êtres qui se rencontrent.
Eh bien, tu as tout à fait raison. Mm-hmm. Certains auteurs du Moyen-Âge utilisent le sens rapprochement entre un homme et une femme virgule, rapports conjugaux, qui est emprunté au latin médiéval approximatio, qui est action d'approcher quelqu'un. Donc si vous lisez le latin chrétien, les références seront en description du podcast.
Tout à fait, couramment.
Bah, écoute, je sais pas. Hein.
On s'adapte à la diversité de nos publics.
Alors, pour savoir que votre interlocuteur ou interlocutrice approxime, ou si vous voulez faire savoir aux autres que vous-même faites des approximations, il y a des indices, des éléments de langage. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns ? On en a utilisé un petit peu.
Je crois, en gros... Ouais.
À vue d'œil.
À la louche.
À grosso merdo. J'aime beaucoup grosso merdo, ouais. Personnellement.
À un poil près.
À une vache près.
À une vache sphérique.
Exactement. Donc, ce sont des marqueurs d'approximation. Alors Marie-Noëlle Roubaud, chercheuse à l'université de Aix-Marseille, a travaillé sur cette notion d'approximation lexicale en se basant sur des corpus de français parlé de l'université de Provence. Elle défend dès 1988, avec Liz Temple, l'importance de l'approximation lexicale dans la production de la parole, alors que certains auteurs parlent de raté, en pensant qu'il s'agit de rectification que nous accomplissons sur notre discours ou simplement une marque de malaise. Les deux autrices proposent de classer dans leur article l'approximation lexicale, les marqueurs d'approximation en plusieurs groupes pour différentes utilisations. Alors, les énumérations à valeur d'approximation lexicale, c'est souvent les choses qui se terminent par... Après, c'est plutôt des exemples, donc c'est des choses ou des trucs comme ça. Un genre de, une sorte de, une espèce de... On choisit d'employer un nom qui convient imparfaitement et d'utiliser une forme approximative, à peu près. Donc une sorte de ballon, une sorte de fenêtre, comme ça. Comme, donc c'est comme une lampe, mais un peu différent. Ou c'est comme un cahier, mais enroulé. Et puis, elle parle aussi de comment dire ou comment dirais-je. Donc, en conclusion de leur article, elles exposent que les approximations servent dans différentes situations. Donc soit c'est une difficulté temporaire à trouver le bon mot, si le mot précis n'existe pas dans notre langue, ou lorsqu'on veut communiquer sur un sujet complexe, coucou la vulgarisation scientifique, et lorsqu'on apprend une nouvelle langue et qu'il nous manque du vocabulaire. Alors, dans une revue un petit peu plus récente, Wiltrud Mihatch, chercheur à l'université de Bielefeld en Allemagne, fait un tour d'horizon du sens et de la signification de l'approximation. Les conclusions qui sont exposées juste avant de Liz Temple et Marie-Noëlle Roubaud sont reprises et alimentées par d'autres travaux de recherche, notamment avec l'importance de l'intonation et des gestes dans l'approximation qu'on peut avoir dans la vie. Donc la linguistique, comme toutes les disciplines scientifiques ayant un vocabulaire très spécifique, je n'ai malheureusement pas tout compris à cet article et j'aurais bien eu besoin d'un peu d'approximation pour en saisir toutes les subtilités. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas trop dur envers vous-même lorsque vous vous rendez compte des approximations lexicales que vous faites quotidiennement. Elles aident à structurer votre pensée, votre langage. Puis on n'aimerait pas tous parler comme des robots. C'est plutôt chouette.
Heat back to where your heart grows cold. Is that a
son des sciences. Au Labo des Savoirs.
De retour sur le plateau du Labo des Savoirs ou du Savoir des Labos, je ne sais plus trop, en compagnie de Sophie, Célie, Floriane et Jérémy. Jérémy qui, en préparant cette émission, a fait une chouette découverte littéraire.
Tout à fait. Alors on commence à le comprendre, hein, la science approximative, c'est une chose très sérieuse. Toutes les choses très sérieuses ont leur magazine. La science approximative n'échappe pas à la règle puisque j'ai découvert l'existence de J'apprends Magazine. Alors ce projet éditorial est mené par deux illustratrices, Sophie Gendron et Daphné Geisler. Leur point de départ, choisir un sujet, chaque numéro est thématique, le dernier porte par exemple sur l'histoire des femmes dans l'art, et une fois le moment de la rédaction lancé, les autrices ont choisi de se fixer la règle suivante. Interdit de se renseigner, d'utiliser toute autre source que ce qui est déjà dans leur tête. Le magazine est constitué d'un enchaînement de théories dont les points communs sont considérés comme vrais. Alors, intrigué par la lecture de ce magazine, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Sophie Gendron pour mieux comprendre ce curieux projet. Alors déjà, il me fallait comprendre ce qui avait motivé la création d'un tel magazine.
C'est parti du constat qu'on était tous un petit peu des scientifiques liés au fait qu'on a tous fait des études, on a tous fait primaire, maternelle, collège, lycée. Et on avait souvent des débats sur des sujets scientifiques alors qu'on n'y connaissait rien. Et on s'est dit que ce serait plutôt marrant de mettre par écrit ce qu'on avait dans nos têtes. Et avec Daphné, on se connaît depuis les études. Et on a décidé d'admettre que si on était d'accord, on avait, qu'on était détentrice de la vérité absolue, quoi. Ça part un peu de cette histoire de faire des débats sur tout, quoi.
Un drôle de projet, donc, ancrer sur papier des débats sur des sujets éloignés de leur expertise. D'autant plus ambitieux, car je vous le rappelle, que les autrices choisissent de ne pas se renseigner sur le sujet une fois la rédaction du magazine commencée. Alors cela ne veut pas pour autant dire qu'elles n'y connaissent rien du tout.
Donc on a le droit de réviser avant d'écrire, et quand on commence à écrire, on se concentre un peu comme une forme de résidence, où on se coupe un peu du monde et on ne demande pas d'informations sur le sujet qu'on est en train de traiter. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas des très bonnes élèves avec Daphné, et du coup on a tendance à un peu oublier de réviser avant l'interrogation, quoi.
Alors comment fait-on pour parler d'un sujet que l'on maîtrise peu ? Sophie Gendron nous donne une de ses astuces.
En fait, l'intérêt de faire J'apprends Magazine, c'est aussi de faire énormément de digressions. Parce que je pense, par exemple, quand on passe un oral, je pense moi à mes oraux de bac. Quand on a des lacunes en termes de connaissances, on a tendance à faire des digressions pour un peu noyer le poisson. Et c'est un peu ce qu'on a tendance à faire avec J'apprends Magazine. On fait beaucoup de, on parle de choses qui n'ont aucun rapport parce qu'on n'a rien à dire en fait, ou pas grand chose. Donc ça permet de, ça permet d'avoir plus de contenu. Et de se perdre un petit peu, quoi. Et on aime bien émettre une opinion personnelle sur... C'est pas un magazine de vulgarisation scientifique, c'est plus un magazine de notre point de vue sur des choses. Et c'est surtout ça, donc il n'y a pas de limite. Je sais que j'ai parlé, je crois, dans l'histoire de l'art ou dans l'histoire de l'art des femmes, j'ai parlé de ma maman, rapport avec un magazine scientifique, mais ça nous faisait rire de faire ce genre de digression, parce que ça nous fait rire de noyer le poisson, ouais.
Alors j'imagine que vous saisissez l'idée. Il ne s'agit pas vraiment d'un magazine de vulgarisation. C'est ce décalage qui est un peu déroutant au moment de se lancer dans la lecture du magazine. Pour être tout à fait honnête, une fois passé les premières pages, je me suis dit « bon, on se fout de ma gueule là ». Et l'idée de comparer des théories et de ne retenir que ce qui est commun amène à des propos assez étonnants. En conclusion de la section dédiée à Julia Margaret Cameron, on peut lire « Julia Margaret Cameron était une photographe professionnelle car quelqu'un lui avait offert un appareil photo. 55 ans est un âge important dans la vie d'une femme ». Alors malgré tout, j'ai bien ri et j'ai appris quelques trucs. Et finalement, une fois fermé ce magazine, on ne peut pas en rester là.
Étant donné qu'on est approximative, le but c'est que le lecteur ait un doute et ça le pousse à se renseigner sur la vérité aussi. Donc c'est aussi ça qui est marrant avec J'apprends Magazine, c'est que je trouve que ça pousse un peu le lecteur à la curiosité et d'aller voir plus loin et d'aller voir par lui-même. Et c'est pour ça que je trouve ça, c'est pour ça qu'on trouve ça encore intéressant aujourd'hui.
Le contenu pousse au doute, tant sur le fond que dans la forme. J'ai donc demandé à Sophie Gendron de m'en dire un peu plus sur leur source d'inspiration.
Je crois que le point de départ, si je me souviens bien, parce que ça, c'était quand on était en études ensemble, donc c'était à 7-8 ans, je pense, c'était les images doc et les magazines pour enfants scientifiques. Et on trouvait assez étonnant le ton qu'ils prenaient pour parler aux enfants. qui étaient parfois un peu niais. Et nous, à la base, on voulait faire des magazines plutôt pour les enfants. Et finalement, on s'est réorienté. On a fait des magazines plutôt pour les adultes. Enfin, par exemple, on se souvient d'un magazine qui disait « Le ciel est très gros, il est très loin, il brille très fort. » Et c'est une manière de parler qu'on trouvait un peu bête. Et ça nous a fait rire, quoi.
Parler aux adultes avec le même ton que peuvent ou pouvaient, hein, je dois admettre que ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert un image doc, avoir les magazines scientifiques pour enfants, le pari est réussi. Mais J'apprends Magazine, ce n'est pas que du texte, car je vous rappelle que Sophie Gendron et Daphné Geisler sont illustratrices.
C'est la même démarche à la fois pour les textes et les images, on n'a pas le droit de regarder sur Internet non plus. Et Daphné et moi, on a fait une formation aux arts décoratifs de Strasbourg en illustration toutes les deux. Du coup, c'est notre domaine, on va dire, d'expertise. Plus ou moins, c'est plutôt le dessin que le texte. C'est très difficile de dessiner de mémoire un corps, un cœur ou des poumons. On trouvait ça bien de se lancer le défi de dessiner des choses de mémoire alors qu'on n'est pas des scientifiques. Comme on fait énormément de digressions, on a un peu tendance à illustrer des choses qui n'ont aucun rapport avec le sujet. Comme ça, ça nous évite de dessiner des choses scientifiques. Et ça nous fait rire d'illustrer plutôt les anecdotes que les vérités qu'on essaie d'affirmer.
Alors, les pages du magazine présentent des diagrammes et des figures légendées à la manière des articles scientifiques. Un clin d'œil qui est aussi une façon de détourner ces codes.
Très clairement, on a une certaine passion pour les camemberts et les graphiques complètement absurdes qui n'apportent aucune information. Par exemple, le graphique qu'il y a dans nos magazines, c'est le même depuis le début. On l'a calé dans tous et on a mis des informations, mais c'est le même dessin depuis le début du magazine. Donc ça n'a aucune valeur scientifique. Exactement, c'est juste les légendes qui changent, mais c'est le même dessin.
Alors à ce moment-là, la chronique, peut-être vous dites-vous que ce projet est vraiment génial. Ou peut-être pensez-vous que moi-même, je me fous un peu de vous, à meubler du temps d'émission en évoquant un magazine qui n'a rien de scientifique mis à part le nom, et dont les autrices disent ouvertement qu'elles écrivent un contenu non fiable, illustré de manière un peu superflue. Alors j'avais une dernière question à poser pour persuader celles et ceux qui sont dans cet état d'esprit. En préparant l'interview, je suis tombé sur le blog de Sophie Gendron, où j'ai pu voir d'autres projets d'inspiration scientifique. J'ai pu notamment voir des cartes un peu absurdes. Une géographie simplifiée de l'Antarctique et un planisphère étudiant le lien entre la pluie et l'intolérance au gluten. Et là, je me suis demandé, comment Sophie explore-t-elle le lien entre science et art ?
J'ai toujours aimé garder une imagerie, des codes scientifiques dans mon travail et j'aime bien le fait que souvent quand on présente une information à un lecteur à travers des codes scientifiques, le lecteur il a vachement tendance à l'admettre comme vrai alors que ça peut être faux. Et j'aime bien le fait de tromper le spectateur en faisant des rapports entre des choses qui n'en ont pas et lui caler sous les yeux une imagerie scientifique. Donc ouais, j'ai pas mal travaillé sur la science, sur le mensonge dans la science. Ouais.
Le lien entre mensonge et science, voilà qui est d'actualité. Alors qu'ai-je envie de retenir de tout ça ? Alors premièrement, Sophie Gendron et Daphné Geisler ont eu l'air de bien s'amuser à la conception de ce magazine, et cette bonne humeur est communicative. Donc si vous appréciez l'humour absurde, J'apprends Magazine est fait pour vous. Ensuite, cette réflexion sur la crédibilité accordée aux propos ayant un formalisme scientifique est cruciale. Ici, pas de mégarde possible, les autrices nous préviennent dès le début. Tout ceci est approximatif et la vérité survient dès lors qu'elles tombent d'accord. Mais ailleurs, ces hypothèses sont souvent implicites. Comment être sûr qu'un contenu aux formes scientifiques n'est pas si approximatif ? Je pense que vous aurez chacune et chacun en tête vos exemples fétiches. Moi, il me vient tout de suite cette séquence incroyable d'explosion en direct d'un journaliste sur LCI, dans l'animation animée par David Pujadas, qui face à des graphiques sur les cas de Covid en France et dans le monde, se fait sèchement contredire par l'épidémiologiste Catherine Hill. Cela n'a pas empêché de continuer à dérouler son analyse, probablement grâce au soutien de ses graphiques et de ses chiffres qui donnent une aura de sérieux. Gendron nous l'a dit clairement, la digression est l'art de cacher que l'on parle d'un sujet que l'on ne maîtrise pas. Alors, loin de moi de dénigrer cette pratique, mais c'est probablement quelque chose à méditer lorsque l'on a des doutes sur le sérieux d'un propos. La multiplication des exemples et des anecdotes n'est pas vraiment un argument très poussé et très fort. Dans J'apprends Magazine, le doute mène à la curiosité et non au rejet ou au complotisme. Tout doute n'est pas à jeter. Si vous souhaitez tenter l'expérience, la boutique en ligne attend votre visite et je remercie encore Sophie Gendron d'avoir pris le temps d'échanger avec moi.
Et merci Jérémy de nous avoir du coup donné cet entretien et ces questionnements qui sont fort intéressants parce que j'ai l'impression que ce magazine, c'est un peu la matérialisation de l'approximation qu'on peut avoir dans nos têtes. C'est on a une représentation un peu toujours erronée ou avec tous nos biais de plein de choses. Et c'est un exercice de tête. C'est qu'est-ce que je sais de ce sujet, en fait, avec toutes ces approximations, ces biais, ce qu'on a appris, ce qui a été modifié, ce qu'on a pu imaginer dans nos têtes, en fait.
C'est exactement ça. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que ces approximations, en fait, elles ne sont pas là pour nous tromper. À la base, elles sont là pour nous aider à concevoir un monde qui est assez complexe et pour nous faire des raccourcis de pensée qui nous permettent de prendre des décisions dans un temps qui est souhaitable et rapide. Et donc, dans certaines situations, c'est pas très grave finalement d'avoir des biais et des raccourcis. Au contraire, c'est là pour nous aider. Mais lorsqu'on va prendre peut-être des décisions un peu plus compliquées, si on n'a pas confiance, on peut prendre des décisions qui vont être entachées de plein d'approximations. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce magazine, c'est en effet le fait de poser sur papier en fait toutes les choses qu'on sait. Et en fait, d'avoir décidé d'un critère de vérité qui est complètement décalé, qui est ce qui est la vérité, c'est ce qui est commun aux deux. Par exemple, à un moment, donc, dans le numéro que j'ai entre les mains, là, c'est sur les femmes dans l'histoire de l'art. Donc, il y a une artiste qui s'appelle Ilma Alf-Klimt. Bon, je te veux que je ne connaissais aucune des personnes qui sont présentes dans ce magazine. Et l'une d'entre elles dit qu'elle est suédoise et l'autre dit qu'elle est norvégienne. Et finalement, la conclusion, c'est qu'elle est du Nord, de l'Europe du Nord. Et en fait, je trouve que en fait, ce critère de vérité paraît complètement absurde, en fait. Jamais, enfin, en tout cas, dans la vraie vie, c'est souvent les choses qui sont communes à tout le monde qui sont la vérité, en fait. C'est plus compliqué que ça. Mais le fait, du coup, de fixer un critère qui est complètement absurde fait réfléchir à nos propres critères de vérité. Qu'est-ce que, dans nos choses approximées qui sont dans nos têtes, on considère comme vrai ou pas? Pourquoi? Et comment est-ce qu'on peut être sûr, en fait, qu'on sait des choses, quoi? Et en fait, dans ce magazine, ce qui est sûr, c'est que à la fin, quand on le ferme, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont probablement un peu éloigné de la réalité. Et donc, ça donne envie de creuser, d'aller trouver des sources un peu plus fiables pour vraiment, en fait, savoir ce qu'il en est, quoi.
Je trouve ça assez impressionnant comme exercice de se dire « Oh, je vais faire des petites recherches et puis après, j'éteins tout et je dessine des trucs de mémoire en se disant « Bah, c'est peut-être ça, mais peut-être pas. Du coup, on y va, on fait le truc sur lequel on se sent le mieux et qui nous paraît le mieux. » Et je trouve ça impressionnant parce que enfin, que ce soit dans notre travail ou que ce soit dans la vie quotidienne, on a tellement accès à l'information rapidement parce qu'on a un téléphone dans les poches ou dans le sac. Et finalement, on peut savoir combien il y a d'habitants à Chicago en deux secondes, finalement. Et alors que si on avait dû trouver cette information autrement ou faire une approximation sans accès, on ne serait peut-être pas arrivé à ces conclusions-là. Et je trouve ça impressionnant d'arriver à se détacher complètement des chiffres, on va dire.
Oui, c'est s'imposer une approximation, en fait.
Oui, c'est ça.
Moi, ça me rappelle mes repas de famille, où généralement, il y a une question qui est posée par l'un d'entre nous, et après, c'est je sais pas, je pense que c'est à peu près ça. Et donc, il y a une discussion qui commence à se créer sur la question plus ou moins scientifique, ou même d'actualité, et des débats. Et puis, il y a un moment, ma mère qui va se lever pour aller chercher un Larousse, ou pour aller regarder sur Wikipédia, pour donner une réponse juste, fiable, et une vérité établie à ce débat, parce qu'elle ne supporte pas de ne pas savoir. Et donc, si on commence à débattre sur un sujet scientifique, aussi bien que ça peut être, non, mais même un sujet sociétal sur les femmes peintres, est-ce qu'elle est norvégienne, suédoise, combien il y a d'habitants à Chicago, combien il y a de graderies dans un sac. Donc, nous, on va s'esquinter à faire des approximations, des estimations et des je pense que, j'ai lu que, dans mon souvenir, c'est. Et puis, elle va chercher, elle, l'information véridique. Et en fait, c'est assez amusant parce qu'une fois qu'elle a de l'information, il n'y a plus de débat et on fait OK et on arrête la discussion. Mais on a appris un truc.
Ça pose aussi la question, finalement, de la simplification, parce qu'il y a forcément des informations qu'on ne retient pas, et on est obligé de faire un peu quelques simplifications, des approximations pour retenir des informations. Je ne suis pas sûre que dans un mois, si je vous redemande combien il y a d'habitants à Chicago, vous allez me dire exactement 5 millions, mais vous allez me dire quelques millions, peut-être, quelque chose comme ça. Est-ce que pour vous, ça fait partie également du processus de transmission, de vulgarisation? Est-ce que c'est obligé de passer par une phase de compréhension? Est-ce qu'il y a des concepts qui sont vraiment beaucoup trop compliqués pour être donnés tels quels et qui doivent être approximés, quitte à perdre une part de vérité?
Moi, j'ai une réponse qui est... Enfin, à mon avis, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de débat à avoir dans ma vie. Oui, c'est obligé de simplifier. Moi, je travaille avec des enfants qui ont généralement entre 6 et 12 ans, parfois un peu plus âgés. ben, y a des choses qu'on fait ensemble et c'est pas possible de pas faire des approximations parce que à 6 ans, ben, la différence entre la densité et le poids quand on fait de l'huile et de l'eau, ben, c'est compliqué à saisir cette différence-là. On fait des expériences pour montrer un peu la différence, mais il y a un moment où je passe forcément par une phase de simplification où je vais donner les bons mots, les mots scientifiques qui correspondent au bon concept. Mais je veux dire, on peut le simplifier en disant ça, c'est à peu près ça. Et moi, je peux pas, enfin, en tout cas, dans ma vie quotidienne, c'est possible de passer à côté de cette simplification.
Mais tu simplifies pour vulgariser le savoir, en fait.
Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est impossible dans ma vie quotidienne de pas simplifier pour pouvoir partager des choses.
Est-ce que vous utilisez aussi, par exemple, des métaphores qui sont une façon d'approximer des choses pour pouvoir se rattacher à un référentiel de quelque chose de connu, d'avoir une comparaison plus simple pour comprendre des phénomènes?
Toujours.
Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est Lee qui disait que si elle prenait sa taille comme référence pour essayer de calculer, par exemple, la taille d'un immeuble, en fait, les métaphores sont un super bon moyen de comprendre des choses qui sont incompréhensibles habituellement. Quand on parle, par exemple, des distances dans l'univers, nous, humains, c'est un peu compliqué de se rendre compte vraiment, réellement, la distance. Donc, moi, je me souviens que quand j'étais petite, en primaire, notre prof, on habite à Nantes, et il avait pris des lieux de Nantes que nous, on connaissait, enfants, et il avait dit, bah, ça, c'est à peu près là où se trouve Pluton, par rapport à nous, sinon, on était la Terre. Et donc là, on voit, on parcourt, on a... Alors, c'est une approximation. Pluton ne se trouvait pas réellement au niveau de la cathédrale, mais ça permettait quand même de savoir à peu près qu'est-ce qu'il en était dans la réalité. Et donc, je pense que ce n'est pas vraiment des simplifications. Enfin, c'en est, mais elles sont nécessaires pour se représenter des choses et pour s'en souvenir, parce que je m'en souviens encore, alors qu'il nous aurait dit des distances et les chiffres exacts de ces distances entre planètes, je n'aurais rien retenu.
Jérémy ?
Je pense que la... Je vous rejoins sur l'importance des métaphores et des simplifications. Je pense que c'est important d'avoir des points de comparaison, mais je pense qu'il faut aussi bien insister sur les limites de ces métaphores et de ces comparaisons. Parce que je pense qu'il y a, dans certains un peu complexes, la difficulté quand on pose des métaphores, c'est de ne pas justement saisir la complexité qu'il y a derrière ces concepts-là. Je peux peut-être donner un exemple pour que ce fasse trop cryptique, mais je pense par exemple à la physique quantique, en fait, où il y a pas mal de métaphores qui existent pour essayer de présenter des concepts, comme par exemple le fait que les propriétés ne sont pas vraiment définies, le caractère probabiliste, des choses comme ça. Et donc, ça a donné lieu à plein de métaphores très intéressantes, et je pense qu'ils permettent de commencer à avoir une première image des choses. Mais la difficulté après, c'est de ne pas tordre trop ces métaphores pour aller vers des dérives, je pense peut-être que vous connaissez, autour des thérapies quantiques, etc., où finalement, en fait, on va essayer... De dire, bah voilà, par exemple, une particule, elle existe et elle n'existe pas en même temps, et donc du coup, bah, on va retrouver la même chose sur des maladies dans le corps, etc. Et en fait, encore une fois, ces métaphores, elles permettent de toucher du doigt, mais je pense qu'il faut aussi réussir à dire, bah, par exemple, on ne peut pas du tout considérer que ce qui se passe à l'échelle d'une particule, c'est réplicable à l'échelle d'un être vivant, et donc comprendre aussi les limites de ces métaphores, sans quoi, en fait, on perd l'information qui est derrière, quoi. Donc je pense que la simplification, c'est important, mais il faut réussir à comprendre aussi dans le concept qu'on veut transmettre quelles sont les choses qui sont propres et qui sont pas négociables, en fait, les choses qu'on doit forcément transmettre, et les laisser là. Et pour le reste, en fait, pour moi, c'est un peu comme ce qu'on disait avec Fermi, par exemple, c'est on va essayer de comprendre, en fait, quels sont les paramètres clés du concept qu'on veut transmettre, et le reste, peut-être que ça a une importance, mais plus négligeable, et du coup, on va peut-être pas en parler. Mais ce qui est vraiment important, il faut réussir à le faire passer sans trop dégrader, en fait, le contenu, quoi.
C'est mettre une sorte de disclaimer et de dire attention, là on simplifie, mais comme ça vous allez comprendre de quoi on parle. Et après, on rappelle quand même que ce sont des métaphores, ce sont des simplifications, des approximations, et qu'il y a quand même des choses plus spécifiques, c'est ça ?
Je pense qu'en fait, c'est comme tout modèle physique, finalement. Quand on donne une approximation à un modèle, on donne toujours des conditions de validité. C'est-à-dire, ben, je sais pas, par exemple, comme l'a dit Dounia, la loi des gaz parfaits, c'est valable lorsqu'on est à basse pression dans certains types de gaz qui ont peu d'interactions entre chacun des constituants. Enfin, en gros, il y a des règles. Et en fait, c'est pas parce que c'est magique, entre guillemets, c'est parce qu'en fait, il y a des hypothèses derrière qui permettent d'arriver aux propriétés qu'on utilise dans ce modèle. et qu'en fait ces hypothèses elles correspondent à certains phénomènes qu'on peut aussi associer au modèle. Et l'idée c'est, voilà, c'est de comprendre en fait dans quelle mesure cette approximation elle est juste.
De mettre un cadre.
Exactement, ouais.
Donc voilà, on simplifie avec un cadre et avec un disclaimer pour dire attention, on simplifie.
C'est ça, on simplifie. Et ça marche dans ce cas-là parce qu'on a ces propriétés-là qui permettent d'arriver à la fin au résultat.
Marianne,
là où je mettrais un peu de nuance aussi, c'est que je rejoins Céline, c'est essentiel de pouvoir simplifier, on est obligé de passer par ces métaphores-là. Mais il y a aussi une part d'appropriation qui est propre aux personnes qui réceptionnent ces messages. Et donc moi, en tant que psychomotricienne, ça m'arrive régulièrement d'expliquer à des patients la manière dont est constitué ou s'organise un peu le corps. Et du coup, je prends souvent des comparaisons. Et en fait, ça m'arrive régulièrement que des patients se réapproprient ça de manière très, très surprenante et que je dois finalement défaire ce que je lui ai appris. Par exemple, j'avais expliqué les structures de la main en comparant un peu les carpes et les métacarpes à des rayons de vélo, en fait. Et en fait, le patient, du coup, une fois où il s'est ouvert la main, était persuadé qu'il pouvait presque écarter ses doigts à 360 degrés, comme un rayon de vélo, par exemple. La même chose avec le cerveau, à dire, bah, c'est un peu comme un muscle, plus tu le sollicites, plus tu l'entraînes, et plus il va s'entraîner, être musclé, y arriver. Et en fait, il s'est représenté que, du coup, s'il entraînait trop son cerveau, ça pouvait gonfler et se retrouver écrasé dans la boîte crânienne, par exemple. Et voilà, donc des comparaisons comme ça, j'en ai fait plein, et les trois quarts du temps, ça fonctionne bien, et voilà. Mais il y a effectivement une part d'appropriation qui est propre à ce que chacun a vécu et connaît et a eu l'occasion d'apprendre aussi. Ou pareil, j'avais pu comparer le transit à un tapis roulant. Et en fait, pour un patient qui avait des gros problèmes d'évacuation, il se représentait que du coup, ce tapis roulant pouvait s'arrêter à tout moment et qu'il pouvait un peu se retrouver bloqué de partout et gonflé de partout parce que fin de l'évacuation du tapis roulant, quoi. Il y avait des choses comme ça où... Ou du coup, entre ce que je pensais communiquer, qui me semblait très simple, parce que le patient s'était approprié, il y avait un gros écart. Et on aura beau simplifier toujours et utiliser toujours des métaphores, il y a quelque chose qui est vraiment propre aux personnes qui réceptionnent le message derrière, quoi.
On en revient à ce qui s'appelle l'interprétation des lois de la nature, finalement. C'est ce que font les mathématiques et la physique. On ne sait jamais qu'une représentation extrêmement biaisée de ce que nous, humains et humaines, voyons de la nature. Et... Plein d'approximations, de métaphores et d'interprétations. Jérémy.
Peut-être que là, on commence un peu sur le sujet, mais il y a des gens qui sont intéressés au concept de folk science, donc entre guillemets la science populaire. Et en gros, c'est l'idée de se dire que quand on est enfant et ça perdure du coup pendant tout l'âge adulte, on développe des sortes de théories intuitives. Donc par exemple de l'économie intuitive, de la physique intuitive, de la biologie intuitive, de la psychologie intuitive, où à partir de nos observations, on va essayer d'en tirer des généralités. Et en fait, toute la difficulté quand on travaille dans les sciences, c'est de se dire, des choses que je sais, est-ce qu'entre guillemets, c'est des folk knowledge, quoi, donc est-ce que c'est des connaissances que j'ai à travers mon observation, ou est-ce que c'est des choses que j'ai vraiment pu observer grâce à une démarche un peu plus poussée. Et quand on fait de la vulgarisation, si jamais on a une métaphore qui résonne avec un concept entre guillemets de folk science, donc science populaire, on peut du coup légitimer des concepts qui sont erronés, mais qui sont présents de base du fait de nos observations, et donc en fait propager comme ça des idées un peu des sortes de légendes, et donc finalement perdre, comme tu disais Florian, en fait le contrôle sur l'image qu'on voulait donner au départ. Et c'est pour ça que quand on fait de la vulgarisation, c'est toujours important mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, de partir de ce que les gens savent en face. Et de se dire, est-ce que ce qu'ils savent, ça paraît un peu déconnant? Et donc, du coup, on va essayer d'abord de corriger un petit peu les fondations et pour rajouter ensuite un étage. Ou est-ce qu'on rajoute un étage sur des choses qui sont bien construites?
Dernière question. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des scientifiques, des gens extrêmement sérieux, enfin plus ou moins sérieux, on va voir, qui avaient tenté de mesurer, de peser quelque chose de très précis dans notre corps? Est-ce que c'est le poids des cheveux, le poids de l'âme, le poids de nos bactéries ou le poids de notre conscience un lendemain de soirée un peu trop arrosée?
Il doit peser lourd.
Ça dépend. Moi, pas trop.
Ah.
Ma conscience, bon.
Elle je crois là-bas. Avoir la réponse.
Dis-moi.
Pour moi, c'est l'âme.
L'âme, tout à fait. Et Floriane, pourrais-tu nous éclairer dessus?
Tout à fait, j'en ai les capacités. En fait, c'est une expérience qui a eu lieu en 1907 par un médecin écossais qui s'appelait Duncan MacDougall et qui a présupposé trois points préalables à son expérience, c'est-à-dire que 1. L'humain a une âme, 2. Cette âme quitte le corps après la mort, et 3. L'âme a un poids. Et donc, il a élaboré un procédé expérimental de pesée de personnes mourantes qu'il a mis à l'épreuve sur 6 patients. Et il pèse ainsi les patients en fin de vie durant les heures qui précèdent leur mort en mesurant la perte de poids régulière qu'il attribue alors aux échanges physiologiques gazeux avec l'environnement, via la respiration ou la transpiration entre autres. Puis, à la suite de leur mort, il mesure que le corps des fraîchement défunts perd l'équivalent de 21 grammes de manière plutôt soudaine et distincte de la perte de poids régulière décrite précédemment. En guise d'expérience témoin, il répète l'expérience sur 15 chiens, créatures supposées être sans âme. Nous avons donc là une quatrième hypothèse. Et donc, il tue ces chiens pour les besoins de la science. Aucune variation inexplicable de poids ne survient suite à la mort de ces derniers. Donc, bien sûr, le docteur Duncan McDougall a supposé que l'être humain avait bien une âme qui quittait le corps au moment de la mort et que cette âme pesait 21 grammes. Alors, par souci d'exactitude, il va aussi se peser lui-même en faisant des expirations et des inspirations forcées, et il montre que cette respiration ne fait pas varier le poids mesuré, donc le dernier souffle expiré des patients n'expliquerait pas la perte de ces 21 grammes. Et il admet quand même une petite marge d'erreur assez approximative, parce que sa balance, elle est précise à 5,66 grammes. Mais voilà, son estimation reste quand même relativement fiable selon lui. Il envoie différents papiers, différentes publications à droite à gauche, et voilà. Ma foi, au-delà de raconter une belle histoire, ou une histoire drôle selon les points de vue, il y a bien quelques éléments à redire dans cette histoire, ce que la communauté scientifique n'a pas manqué de pointer. Donc, d'après vous, quel reproche peut-on faire à ce brave docteur McDougall ?
Il n'y a pas une question de déshydratation du corps une fois mort, je
sais pas. Ah, c'est ce qu'il incluait du coup dans les échanges gazeux réguliers.
Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est de... En gros, il mesure un effet qui est lié à la mort, et il en déduit donc qu'il y a une âme et qu'elle s'en va à ce moment-là, quoi. Alors qu'en fait, la seule chose qui met en effet, c'est qu'il y a une variation franche de masse. Mais comment est-ce que ça c'est en lien avec un l'âme ? Pas vraiment de preuve, quoi.
Moi, déjà, je dis, c'est-à-dire que tous les humains ont une âme, et c'est une très, très, très grosse approximation, je trouve.
Pessimiste aujourd'hui, juste... Dounia.
Très, toujours.
Je trouve ça juste super glauque hein, comme expérience. Je sais pas vous, mais.
Ouais.
Juste, tu vas au chevet des gens qui vont mourir et tu les pèses.
D'un point de vue pratique, il faut quand même visualiser le bazar, quoi. Il arrive avec une balance. Bonjour madame, bonjour monsieur, excusez-moi. Puis-je peser votre proche sur le point de mourir, avant et après ? Enfin, c'est une organisation.
Alors, on est en 1907. Les notions de consentement des patients n'étaient pas trop prises en compte. Ça entre d'ailleurs en cause plus tard dans certains biais qu'il y a eu pendant l'expérience. C'est-à-dire que certains patients n'étaient pas consentants et se sont agités pendant la pesée. Donc, une partie des résultats n'ont pas pu être pris en compte. Et en fait, au niveau du procédé, il est adapté à un lit d'hôpital. Donc, les patients étaient installés totalement à l'aise et ils mouraient à l'aise. Ça, c'est la théorie, en tout cas, dans les écrits. Et ils mouraient sur ce lit de pesée. Et ça permettait en plus que si jamais il y avait certains fluides corporels qui s'échappaient suite au décès, eh ben, ils restaient inclus dans la pesée, en fait.
Important, effectivement.
Voilà.
Ah, donc, la balance est incluse dans le lit.
Ouais. C'est un lit qui pèse. Voilà.
Pèse dans le game. Non, mais ça n'empêche pas, c'est glauque comme.
C'est glauque.
C'est glauque comme truc.
Et beaucoup, beaucoup d'hypothèses. Hein.
Beaucoup d'hypothèses et puis très peu de patients. Hein. Je suis désolée, 6 patients, 20 chiens, ça me paraît pas suffisant. Hein.
Effectivement.
Est-ce que tu doutes, Célie ?
Oui.
Effectivement, ça fait partie des choses qui sont reprochées donc, au docteur McDougall. C'est qu'en fait, il est parti de plusieurs présupposés eux-mêmes hypothétiques pour formuler son hypothèse et penser son procédé expérimental. Ce qui a fait qu'il a créé un raisonnement très approximatif en éliminant allègrement d'autres hypothèses alternatives. Supposons que McDougall n'ait pas observé de variation de poids, cela aurait aussi bien pu signifier que l'humain n'a pas d'âme, ou encore que cette âme ne quitte pas le corps au moment de la mort. Ou peut-être que le poids des chiens n'a pas varié à leur mort parce que la cause de celle-ci était d'origine brutale et que du coup ces âmes ne pouvaient pas s'en aller en paix peut-être. Hypothèse alternative. D'autres scientifiques se sont prononcés sur la question en supposant que la perte de poids brutale après la mort pouvait s'expliquer par des phénomènes physico-chimiques comme la variation de température du corps suite au fait qu'il n'y avait plus de respiration, ou encore le relâchement des dernières traces de tonus du patient décédé qui pouvait, avant, parasiter un petit peu la pesée. Voilà, donc il y a eu plusieurs hypothèses alternatives qui ont été formulées. Et en fait, il est en réalité impossible de connaître le moment exact de la mort. Ça, c'est le deuxième point. On l'a défini avec l'arrêt respiratoire, l'arrêt cardiaque, la mort cérébrale ou même la mort civile officielle, le moment où on décrète la mort. Et donc en fait, à quel moment est-ce que la pesée peut être réellement prise en compte comme celle d'une personne qui vient fraîchement de mourir ? Voilà, deuxième point. Et puis, troisième point, mais qui est probablement le plus important de tous, ces résultats présentent un énorme biais de sélection. En fait, McDougall, il ne retient qu'un seul des cas étudiés sur les 6 pour valider sa démonstration. Sur les 6 cas étudiés, donc ce que je disais avant, il y a des patients qui se sont agités et qui n'ont pas pu... il y a un patient qui s'est agité parce qu'opposé au fait d'être pesé au moment de sa mort. Il y a un patient qui n'a pas pu être déposé à temps sur le lit et il est mort en fait pendant son transfert. Il y a des patients qui ont continué de perdre du poids bien après leur mort régulièrement, donc en fait ça en a éliminé 2 autres, et le dernier, il a perdu du poids et il l'a repris. Genre son âme se serait peut-être partie en vacances quelques minutes et se dit « Ah attendez, en fait je reviens parce que c'était trop bien là !» Donc en fait sur ces 6 patients, il en retient qu'un seul pour mettre en avant son hypothèse, et le reste, bon, il a un peu truqué ses écrits et ses chiffres, et ça s'est su bien après. Et finalement, ces 3 premiers points que je viens de lister montrent que le docteur McDougall, il manquait allègrement de neutralité objective dans toute cette histoire. Et ce qu'on voit, c'est que la communauté scientifique, qui ne savait pas tout ça, eh ben, elle a fortement réagi à cette démonstration en proposant beaucoup d'hypothèses alternatives, dans ce que j'ai un petit peu listé un peu plus tôt. Et on voit qu'elle a dépensé beaucoup d'énergie et d'encre pour démentir la fiabilité de cette expérience. Et ça a demandé beaucoup, beaucoup d'écrits et d'énergie, effectivement. En anglais, donc j'ai pas pu les retracer, hein, je vais pas mentir là-dessus. Et finalement, les morales de toute cette histoire pourraient être nombreuses. Mais bon, moi je suis pas Jean de La Fontaine, donc je vous laisse en tirer vous-même vos propres conclusions. Pour ma part, ce que je retiens surtout, c'est que cette expérience ne permet ni de confirmer ni d'infirmer l'existence de l'âme. En revanche, elle permet de confirmer que la bêtise peut être humaine, y compris chez les scientifiques, ce que de nouvelles personnes se sont allègrement chargées de nous démontrer encore très récemment. Toute ressemblance serait bien sûr fortuite.
Et certainement pas autour de cette table. Merci Floriane pour cette chronique. Avais-tu des sources d'inspiration ?
Mais oui, bien sûr Dunia, que je peux te répondre. J'ai d'ailleurs une excellente source à ce sujet, puisque Alan Van Lanten s'est chargé d'écrire une chronique qui synthétise cette expérience sur podcastscience.fr.
Et on leur fait un grand coucou. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cette nouvelle émission approximative et animée du Labo des Savoirs, enfin de retour en studio, et ça a fait très plaisir. Merci Célie, Sophie, Floriane, Jérémy, ainsi que Nolwenn qui était dans l'ombre pour cette émission, mais très attentive. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres en podcast et sur notre site labodessavoirs.fr. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour nos actualités. Très bonne écoute et à la semaine prochaine.